France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. C'est le souvenir d'un poids de quelques petits kilos qui repose sur mes avant-bras, que je porte avec la plus grande délicatesse, avec la plus grande fierté. J'ai 5 ans et dans mes bras, ma petite sœur, ma première petite sœur et mon premier souvenir d'enfance. Il n'y a pas de photo de ce moment où je traverse la cour de récré avec ma sœur pour la montrer à mon institutrice. Ce souvenir d'enfance est le mien, le premier, le plus lointain, et j'aime encore me souvenir du poids sur mes avant-bras. Et vous, à quoi ressemblent vos souvenirs de l'enfance? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le mercredi 2 juillet, vous écoutez France Inter et bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Eva Rock.
La maison où ma mère avait son petit magasin de coiffure et est encore resté
de cette maison.
De cette maison-là. Ça fait plusieurs
c'est
années que je vais dans cette rue pour essayer de la décrire, essayer de retrouver des souvenirs qui m'y rattachent. Et c'est une rue où j'ai vécu avant la guerre, jusqu'en 1942, que je n'avais pas revue ensuite pendant des années et des années. Ça a été le point de départ de ma tentative autobiographique qui était informe au début. Et d'arriver à cerner quelque chose qui soit ma propre histoire, mon propre espace, mon propre lieu.
La voix de Georges Perec, c'était en 1976. Nos souvenirs d'enfance sont fréquemment liés à des lieux. Nous allons y revenir tout au long de cette émission en présence de nos trois invités. Bonjour Hortense Rénal.
Bonjour.
Poétesse, performeuse, autrice de Ruralité, édité chez Carnet du Dessert de Lune. Ensuite de Bouche Fumier, c'était chez Cambourakis. Et puis désormais de Abandon, c'est votre dernier recueil et c'était aux éditions La Crypte. Bonjour Mayalène Berasategui. Est-ce
Bonjour.
Que j'ai bien prononcé votre prénom et votre nom?
Berasategui.
Berasategui. Ah oui, c'est ma dyslexie habituelle. Berasategui, on est d'accord. Historienne, autrice de La Comtesse de Ségur ou L'Art discret de la subversion, c'était édité au PUF de Rennes. Et à ce seul nom, Mayalène, je dois dire Comtesse de Ségur. Je suis persuadée qu'on est très nombreux et très nombreuses à avoir déjà quelques souvenirs d'enfance qui reviennent. Et on a l'impression de retomber dans nos lectures de petits. Et notre troisième invité, vous le connaissez, Hortense et Mayalène, mais vous ne l'aviez jamais rencontré, je crois. Bonjour Alexis Dormal.
Bonjour Eva.
Nous on se connaît depuis quelques années, je suis tombée amoureuse de votre personnage Pico Bog, mais aussi de sa petite sœur Anna. Alexis, vous dessinez leur aventure, alors celles d'Anna sont nées de votre imagination, celles de Pico, elles sont issues des scénarios écrits par votre mère qui s'appelle Dominique Rock. Je précise que je n'ai aucun lien de parenté ni avec vous ni avec votre maman, on porte le même nom, ça ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Pico Bog, c'est 16 albums pour l'instant, Anna 25, bientôt un de plus pour chacun de vos personnages. J'ai bien compté, oui c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ça sera en octobre prochain. Des albums édités chez Dargaud. Et je dois dire que c'est un enchantement à chaque page. Ça respire l'intelligence, la sensibilité. Puis vos dessins à l'aquarelle sont absolument sublimes. Et je crois que Hortense et Mayalène, vous partagez cet avis. On est d'accord. Vous les lisez, vous connaissiez Pico Bog et vous connaissiez Anna. Hortense, oui.
Oui, et puis je le lis souvent à des enfants autour de moi.
Voilà. Et Mayalène, vous connaissiez aussi?
Moi, je connaissais et je résiste très très fort à l'envie de faire ma fangirl.
Ah oui, mais vous pourrez.
Merci beaucoup.
C'est pour la petite signature à la fin de l'émission.
Exactement.
Si vous êtes sage, vous y aurez droit. La première question est un peu vertigineuse et je la pose régulièrement en interview. Et chaque réponse, souvent, est sujette à réflexion. Mais quel est votre premier souvenir? C'est-à-dire ce souvenir le plus lointain, Mayalène?
Un an et demi à peu près.
Vous aviez un an et demi?
Ouais. J'ai des souvenirs assez anciens. Et je me souviens de mon baptême, parce que c'était aussi la communion de ma sœur et qu'elle avait les fleurs dans les cheveux. Et que c'était la première fois que je voyais quelqu'un avec des fleurs dans les cheveux et que j'ai trouvé ça absolument beau. Et puis j'ai des souvenirs de carnaval ou d'occasion où tout le monde est costumé, donc rien n'est pareil, des choses comme ça. Donc oui, des souvenirs assez...
Mais un an et demi, c'est très jeune. C'est vraiment tout petit, parce qu'on dit en neurosciences généralement que c'est plutôt autour de 5-6 ans les premiers souvenirs.
En fait, je ne suis pas du tout hyper amnésique, mais il se trouve que j'ai changé de langue au cours de mon enfance. C'est-à-dire que je parlais beaucoup basque quand j'étais toute petite. Et quand je suis rentrée à l'école, je me suis mise à parler français et à oublier le basque. Et je me suis rendu compte que j'oubliais. Et donc, contrairement à beaucoup d'enfants à qui on ne dit pas qu'ils vont oublier, en fait, j'ai eu l'info que j'étais en train d'oublier des choses, donc j'ai pu fixer des choses que je pense j'aurais complètement oubliées sinon. Donc c'est pas du tout, c'est je pense essentiellement pour des raisons sociologiques.
D'accord.
Mais ouais, j'ai quelques souvenirs comme ça qui sont assez anciens et ça conditionne pas mal mon rapport aux jeunes enfants.
Ouais. Bah oui, j'imagine. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi intéressée à l'enfance, vous pensez ?
Oui, je pense que ça joue. Ouais. Ça joue parce que c'est plus frais, on va dire.
On va y revenir, bien évidemment. Alexis Dormal, votre plus lointain souvenir ?
Je ne pense pas qu'il soit lointain. Mais c'est le seul auquel je très précisément auquel je pense. Il est lié à déjà enfin à des livres pour enfants. Ma mère, on attendait mon frère et moi sur un lit, le lit de mon frère en l'occurrence. Et ma mère nous dit attendez là, j'éteins la lumière, je vais vous raconter une histoire comme d'habitude. Elle avait choisi une histoire qui allait faire peur. Elle éteint la lumière et elle est arrivée avec une petite bougie sous son visage. Et évidemment qu'elle voulait nous faire peur, mais on était morts de rire. et c'était génial, quoi. Et déjà là, je me suis pas dit, ok, je vais bosser avec elle plus tard, mais l'envie était là, quoi.
L'envie était là. Et vous, Hortense Rénal ?
Alors moi, je suis très impressionnée par effectivement les souvenirs très précis, parce que pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre du magma. Mais en tout cas, là, je vais poser l'ambiance tout de suite. Mon souvenir, c'est celui de sortir dans la cour chez mes grands-parents. Dans la ferme et de voir au loin quelque chose d'un peu étrange au fond de la cour. Et il se trouve que c'était un placenta de veau qui venait de naître dans la nuit. Voilà.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
J'ai l'impression que j'avais 6 ans. Et bon, voilà, vous pouvez imaginer la curiosité d'enfant de voir ce genre d'objet totalement inconnu.
Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans cette expérience que l'on vient de faire, c'est que d'abord, il n'y a pas une définition. Alors, en l'occurrence, pour vous, Alexis, oui, c'est un souvenir joyeux. Mais souvent, c'est ni joyeux ni tragique. On est dans un entre-deux, on ne sait pas trop, et surtout on fait appel à des sens. Je sais que vous avez un sens, vous êtes quelqu'un de très sensoriel, Hortense Rénal, on le sent dans vos poèmes. Là, dans ce souvenir-là, c'est la vision tout de suite, ou c'est aussi une atmosphère, une odeur de la terre qui vous revient en mémoire ?
Oui, c'est une atmosphère. Et d'ailleurs, je trouve que le monde de l'enfant, c'est celui-là. C'est celui du monde où des sensations, où la perception de ces sensations règne, où c'est vraiment peut-être, on est libéré de toutes les conventions. Enfin, même pas libéré, on ne les connaît pas encore. Ouais. Et donc, on peut rendre ça très important. Et effectivement, c'est ce qui compte dans mon écriture poétique.
On va bien sûr y revenir. Et puis, vous nous ferez peut-être un petit cadeau vers la fin de l'émission. Alexis Dormal, Picobog, il incarne à mon sens l'émotion que suscitent ses souvenirs d'enfance. Comment vous avez créé les personnages de Picobog et d'Anna Anna ? Est-ce que c'est des réflexions, des dialogues que vous aviez eus quand vous étiez enfant et dont votre maman se souvenait ?
Elle se souvenait, mais surtout, c'est une enfance réinventée et c'est une enfance souhaitée. Ben vous l'avez compris tout à l'heure, hein, je l'adore, on s'adore, on a toujours échangé tout ce qui nous tracassait, comme tout ce qui nous plaisait, comme voilà, on a des traits de caractère, j'ai du mal à parler de ma mère, je l'adore quoi.
Oui.
Mais en tout cas, voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux puisqu'on travaille ensemble, et c'est assez marrant de voir, on en parlait tout à l'heure en antenne. Alors, dédicace, les gens disent, c'est pas trop difficile de travailler avec sa mère, mais...
Mais c'est un plaisir.
Ah oui, c'est un plaisir. C'est peut-être plus difficile de travailler avec moi, parce que je suis parfois impatient ou défaitiste, et non. Mais c'est simplement que, en grandissant, j'ai lu, on a lu, ou elle m'a fait lire, elle m'a fait découvrir Mafalda de Kino, évidemment Sempé, le petit Nicolas, et Calvin et Hobbes.
Oui.
Ce sont des enfants qui parlent avec parfois des mots d'adultes, parfois des mots d'enfants. Et elle m'a proposé quelques textes et tout de suite on s'est dit ok, en fait on va replonger en enfance, on va la réinventer comme des poupées russes fortes de ce qu'on est aujourd'hui, et on va faire dialoguer ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on était autrefois.
Oui, c'est ce que moi j'aime beaucoup dans Picobog, c'est qu'il parle pas vraiment comme un enfant, enfin encore que, mais on sent toute l'enfance qu'il y a dans ses mots, dans ses facéties, dans ses aventures, avec un peu des mots d'adulte où on peut se reconnaître en fait. C'est ça aussi qui est bien dans Picobog.
Oui, mais c'est une question d'état d'esprit. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ont perdu, enfin oublié un petit, ils sont dans un sérieux de l'âge adulte. Et je trouve que c'est encore plus sérieux et plus beau de ne pas avoir perdu cette âme d'enfant qui peut être très contrastée. Il y a des enfants qui sont très sérieux, d'autres...
Bien
moi,
sûr.
je l'étais à la fois... Ben, j'ai même l'impression d'être déjà une personne âgée quand j'étais petit. Et, ouais, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
C'est une chose et son contraire, quoi.
Ouais.
Et donc, on avait envie de rire de ça.
Maïalène Bérassategui, vous avez étudié le parcours de la comtesse de Ségur et toute son œuvre. Et pour le coup, alors on parle de Picobog. J'aimerais que dans un instant, vous me disiez d'où vient l'origine de Picobog, le prénom et le nom, parce que ça m'intéresse. Dans la comtesse de Ségur, c'est Sophie, Camille, Madeleine ou Paul, hein, c'est le cousin de Sophie. C'est des prénoms qui reflètent l'époque, en fait, et le milieu dans lequel la comtesse de Ségur évoluait. On est d'accord ?
Oui, en l'occurrence, c'est les prénoms... Alors, à part Sophie, qui est son propre prénom, c'est les prénoms de ses petits-enfants.
Ah oui, donc elle a vraiment utilisé son cadre familial pour écrire.
Complètement, mais en le réinventant. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des enfants dont elle parle qui sont en fait des bébés au moment où elle écrit, voire des enfants qui vont recevoir des noms de personnages de romans. Donc il y a aussi beaucoup...
Il y a un aller-retour en fait entre la fiction et puis sa vie réelle. Juste pour qu'on se remette les dates en tête, mais les écrits de la comtesse de Ségur, c'est quelle époque en
fait ?
Second Empire. Milieu du 19e en fait. C'était extrêmement rare d'avoir une femme qui écrivait des romans comme ça, non ?
En fait, elle est rentrée. Il y avait pas mal de femmes qui écrivaient des romans, mais la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle est rentrée en étant une népomamie, c'est-à-dire que Hachette voulait passer un deal avec son mari qui bossait dans les chemins de fer. Et du coup, elle a eu son premier contrat comme ça, sauf que ça a très très bien marché. Et donc, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut écrire des choses qui passeraient pas. Enfin, qui serait censurée si c'était d'autres auteurs. Mais comme c'est elle, et que donc elle a cette position-là, et que ça marche, et ben du coup ça passe. Sauf que c'est quand même très transgressif ce qu'elle fait. Et donc se présenter comme une grand-mère qui écrit pour ses petits-enfants, c'est aussi une manière de pouvoir faire de la littérature sans que ce soit questionné.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
C'est seulement quand je le vis par-dessus la haie que je reconnus le château. Celui de la peur. De la peur de ma mère.
Marcel ! Marcel !
Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance. Je refis lentement le chemin de mes vacances de petit garçon et les chères ombres du passé marchaient auprès de moi. Au pied du mur, tout près du canal, il y avait la porte noire. Celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances. La porte du père humilié. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré.
Extrait du château de ma mère de Marcel Pagnol, les souvenirs de l'enfance s'ancrent très souvent dans un lieu. Nous en parlons avec nos trois invités ce matin, la poétesse Hortense Rénal, le dessinateur Alexis Dormal et l'historienne Maïalène Bérassategui. À vous trois d'ailleurs, quel serait le lieu de votre enfance, Alexis Dormal ? Est-ce qu'il y a un lieu particulier qui symbolise cette enfance ?
Oui, Varengeville-sur-Mer, près de Dieppe, Normandie.
C'est là où vous avez grandi ?
C'est pas du tout là où j'ai grandi.
Ah ben
non,
voilà.
J'ai grandi en Belgique. Mais c'est là où j'ai les plus belles émotions. Ma mère a passé ses vacances d'enfant là-bas. Imaginez les falaises de Cré, l'air iodé, cette végétation luxuriante et le cimetière marin qui, malheureusement, est un peu menacé par l'érosion des côtes. Très connu, il y a la tombe de Braque d'ailleurs là et la tombe aussi de mes arrière-grands-parents. Mais plein de. Hortense, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même l'enfance, ce sont les sensations.
Oui.
C'est ces petits poèmes japonais, là, les haïkus, là, qui décrivent des petits flashs comme ça. Moi, j'ai moins des souvenirs précis que des
sensations.
Des sensations
c'est quelque
absolues.
Chose de diffus, ouais, tout à fait.
Complètement détaché des missions, comme tu le disais, des missions de travail, etc. On est dans l'instant présent. Et alors là, c'était des instants présents, une succession ébouriffante. Quoi.
Ouais. Et vous, Hortense Rénal, un lieu de votre enfance, c'est la ferme de la grand-mère,
c'est aussi la maison où j'ai grandi de mon enfance, mais qui se situe à côté de la ferme des grands-parents, sur une colline en Aveyron, à un quart d'heure environ de la ville d'Espalion. Et beaucoup, beaucoup aussi le moment, on parle de lieu et je trouve, bon, c'est aussi lié à une temporalité.
Bien
et
sûr.
Beaucoup, beaucoup le matin, une mer de nuages dans la vallée, la lumière dorée, les bottes de foin, l'été, voilà.
On y est. Dès que vous en parlez, on y est vraiment. On sent l'odeur et puis je sais pas, même la matière. On sent la matière de la paille, quoi. C'est ça. Hein,
mais parce que vous savez, j'ai pas de mon côté quand j'écris, j'ai pas l'impression de devoir me plonger dans les souvenirs d'enfance. J'ai l'impression que en fait, ils sont toujours un peu là autour de moi, de nous, et que il suffit un petit peu de s'en saisir, parfois aussi de les laisser tranquillement à distance. Et mais voilà, j'ai l'impression que c'est un halo aussi l'enfance autour d'un adulte.
Ils vous accompagnent en fait aussi,
ouais,
tous ces souvenirs.
Tout à fait, tout à fait. Ils me permettent d'écrire et la poésie, c'est arriver à réactualiser cet état-là.
Maïalène Berin-Sategui, je vais vous demander en revanche sur la comtesse de Ségur, est-ce qu'il y a un lieu qui la définit et qui définit finalement sa littérature?
Volonovo, 2 heures à 2 heures de Moscou, qui est là où ses parents avaient un domaine. Alors moi j'y suis allée, hein, c'est avant la guerre, avant tout ça. C'est un château qui aujourd'hui est au bord d'une énorme route qui est la nationale du cru, mais il y a un lac, il y a une petite folie hollandaise du XVIIIe siècle. Enfin, c'est à la fois perdu et très joli. Il y a une forêt avec des arbres immenses et c'est très russe, quoi.
Et
c'est...
vous pensez que ça l'a influencé ensuite dans son écriture, ce décor-là?
Complètement, complètement. Ouais. Ce décor-là, les rapports humains entre les gens, parce que c'était vraiment une seigneurie féodale pour le coup. C'était la Russie du début du XIXe siècle. Et oui, les bruits, les loups la nuit, tout.
Oui, alors justement, Maïalène Berin-Sategui, comment on pourrait définir le souvenir d'enfance chez la comtesse de Ségur? Est-ce que c'est un souvenir heureux? Est-ce que c'est des traumas? Est-ce que c'est de la violence, comme on a pu le lire souvent, qu'on le devine dans les récits de la comtesse de Ségur? À quoi ressemblent ces souvenirs d'enfance?
Alors, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de traumas et de violences qui sont là, qui sont indéniables. Avec une mère qui a changé de religion et qui est devenue très très radicale, et donc c'était un mélange d'éducation à la Rousseau, très il faut survivre au froid, à la faim, à tout, donc voilà, une éducation qui vise à endurcir et en même temps prendre le bonheur partout où il se trouve.
Ouais.
Et donc beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à manger, à courir, à découvrir les choses parce que la joie peut être là quand même tout le temps.
Alors, on a reçu 2 messages que j'aimerais vous lire de Audrey qui nous dit « En termes de souvenirs, pour ma part, c'est quasi zéro. Elle n'a pas de souvenirs, même si on sait que c'est probablement lié à des traumatismes. Je trouve ça très dur de ne pas en avoir, comme s'ils n'avaient pas existé avant. » Mais c'est aussi ça, le non-souvenir est une réalité aussi dans ce sujet dont nous parlons depuis ce matin. Et Hélène nous dit, et je pense qu'on va être d'accord avec elle, « J'ai du mal à faire la part des choses entre mes vrais souvenirs et ceux que j'ai construits par les photos et les récits familiaux. Et ça me dérange de ne pas arriver à avoir des souvenirs précis, mais plutôt des sensations, des impressions. » Moi, je trouve ça plutôt délicieux, même, de ne pas savoir exactement. Alexis Dormal.
Je ressens exactement la même chose, mais de la plus belle des façons, en fait. Et les souvenirs, ce sont des sensations. Ce que j'ai adoré, on veut proscrire l'ennui, mais moi, j'ai adoré des moments de soi-disant d'ennui où je regardais la lumière changeante sur des objets dans le salon de mes parents. C'était je connaissais pas Morandi, hein, mais c'était bien plus beau encore, je trouve. Et j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, mon métier, c'est vraiment de faire revivre ça. Quand j'aquarelle, quand je pose la couleur, l'encre, la couleur qui sèche sur le papier, je repense à ces instants-là, en fait. Je le prolonge.
Vous prolongez, c'est-à-dire que quand vous dessinez la maison de Picot, par exemple, qu'est-ce qu'on voit dans cette maison?
Déjà, je vous parlais de Normandie, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de Paris, il y a un petit peu de tous les endroits. Parce que les souvenirs d'enfance aussi, c'est quand même une multiplicité de lieux. Et surtout aussi, c'est le plaisir de choisir un petit peu de sélection des souvenirs, de ne garder que les moments les plus heureux.
C'est ça, Hortense Reynal, c'est une sorte de grand bazar, comment on pourrait dire, un bazar, dans lequel on
le
pioche.
Le bazar de la chambre d'enfant, d'ailleurs, souvent.
Oui, c'est ça, oui.
Dans lequel on va pouvoir, une fois en train d'essayer d'écrire, de faire une BD ou un recueil de poésie, d'aller choisir. Et je reviens aussi sur cet ennui de l'enfance. Moi, pour ma part, ça serait plutôt le royaume de l'action, où on est dans l'action sans trop réfléchir. Mais je crois que c'est aussi ce qui réunit les deux, l'action, l'ennui, c'est que c'est le royaume de l'attention aussi, l'enfance. C'est vraiment, c'est comme l'enfant qui dit à ses parents, oh, regarde la mouche sur la table. Bon, a priori, le parent va faire, ah oui. Mais en fait, c'est très très important pour l'enfant et c'est ça qui est vraiment magnifique.
Et c'est toujours cette expérience sensorielle qui est déterminante. Je voudrais qu'on donne la parole à Thierry qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Thierry.
Bonjour.
À quand remonte votre premier souvenir, selon vous?
Alors, selon moi, il débute au début de la maternelle.
Oui, ce qui est souvent le cas, hein, autour de 5-6 ans.
Avant ça.
Avant ça, vous direz quoi, 4
avant
ans
ça, oui, ouais. À partir de 3 ans, 3 ans et demi.
Et quel est le souvenir qui vous revient?
Alors, le souvenir qui me revient, il est double. C'est à l'école, nous avions une grande salle pour jouer. Et il y avait comme jeu des petits tricycles où on pédale, il y a un pédalier sur la roue avant, et ça servait à faire de la motricité,
oui.
À aller tout droit sur une ligne ou à faire un slalom.
Bien sûr.
Et le but du jeu ultime, c'était d'utiliser ces tricycles pour faire des tournois de chevalerie, on ne savait pas que ça existait, c'est-à-dire à se mettre l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, parce que les filles le faisaient, autant que les garçons, face à face, à foncer le plus vite possible et à se rentrer dedans.
Et vous avez encore la sensation du choc des tricycles?
Je me souviens que les petits tricycles, ils partaient dans tous les sens. Je ne pense pas qu'on se blessait beaucoup parce qu'on ne devait pas aller bien vite. Et c'était surtout formellement interdit.
Ah, c'est ça, c'était l'interdit en fait qui était intéressant aussi.
C'était interdit, mais ce qui était rigolo, c'était de se rentrer dedans.
Mais oui. Et pardon de vous demander ça, Thierry, vous avez quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 66 ans.
Et vous avez cette sensation encore très présente?
Ah oui, c'est... Alors par contre, à la maternelle, je ne me souviens pas du tout avoir appris à lire, par exemple.
Ah oui. Ouais.
Alors que à la fin de la maternelle, il y avait une remise de prix, et j'ai un grand livre que monsieur le maire m'avait offert. et dedans, il y a un petit papier, premier prix de lecture, de récitation, de tas de trucs, mais je m'en souviens pas du tout.
Eh oui.
Je me souviens pas.
C'est ça qui est intéressant, ouais. C'est ça qui est intéressant dans les souvenirs, ouais, tout à fait.
Je me souviens que des bêtises.
On vous remercie beaucoup. Mais on adore les bêtises, Thierry. Vraiment, dans cette émission, on adore les bêtises. Merci infiniment de nous avoir appelés. Merci de nous avoir appelés au standard. Vous pouvez évidemment continuer à faire le 01 45 24 7000. Alexis Dormal, vous nous disiez que votre maman, ses aventures de picot, c'est comme une sorte de revanche. Elle revit un peu son enfance. En fait, elle trouve des réponses à des situations, à des formes d'injustice qu'elle a vécues quand elle était plus petite?
Elle est encore plus timide que moi, je crois que je peux le dire. Donc, oui, elle repense à des situations et la phrase qu'elle n'a pas su trouver au bon moment, ben là, elle a la possibilité
Des années plus tard, elle peut. Ouais.
Voilà, de lui donner cette tchatche qu'elle n'a pas eu autrefois. Et puis aussi le fait de revivre, de se rappeler, de se remémorer, ça me fait un peu dire aussi que la mémoire, c'est pas vraiment un hasard puisque. Zeus et Mnémosyne, qui était la déesse de la mémoire, ont donné quand même naissance aux muses, à l'art, et je trouve que c'est sur base de ces souvenirs qu'on peut créer. Voilà, c'est ce que Hortense nous disait aussi.
Oui, hein, la poésie, ça vous permet aussi de cultiver ces réminiscences.
Oui, et puis j'entends aussi là comme une sorte de revanche de la langue et dans ce que vous dites Alexis, et pour ma part c'est aussi ça, dans mes souvenirs d'enfance j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des paysages finalement et assez peu de paroles, de personnes parlantes et je reviens aussi à ce que vous disiez Maïalène avec votre souvenir avec la langue, pour ma part c'est l'occitan, alors c'est bien moins présent parce que j'ai pas eu cette tranche vraiment, enfin cette période tranchée dans ma vie, mais il y a aussi une question de langue dans l'enfance et revenir redonner la parole à l'enfant.
Ouais,
aussi,
oui, c'est ça. Ouais. Maïalène Berassategui, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes autant intéressée à l'enfance? Parce qu'il n'y a pas que la comtesse de Ségur dans vos recherches historiennes.
Ouais.
Je pense que c'est pour trouver aussi des réponses aux questions comme Dominique Roch,
ouais. Aussi, j'avais plein de questions quand j'étais petite sur le vaste fonctionnement du monde et les réponses ne me satisfaisaient pas du tout. Et donc j'ai cherché à comprendre pourquoi les adultes tutoient des enfants et leur demandent de les vouvoyer. Pourquoi les enfants votent pas? Pourquoi les enfants vont à l'école mais on les paye pas, par exemple? Plein de questions que j'avais quand j'étais petite comme ça. Et tout ça, ça a une histoire. Et c'est ça que j'essaye de faire aussi, ouais. Au-delà de ça. Et la comtesse de Ségur, c'est quelqu'un qui, je crois, écrit des enfants avec beaucoup d'agentivité. C'est très rare au 19e siècle.
Il faut que vous définissiez ce terme d'agentivité.
En gros, c'est la capacité à faire des trucs. Dans le cas de la comtesse de Ségur, par exemple, vous avez un petit garçon qui prend une boîte d'allumettes et qui explique à la personne qui le garde qu'il va mettre le feu à la maison si ça continue, parce qu'il a des allumettes et qu'il y a des rideaux à la maison. Voilà.
C'est en ça que le mot de subversion est au cœur de votre travail sur la comtesse de Ségur.
Oui, c'est comment faire bouger les lignes sans être révolutionnaire, parce que c'est absolument pas quelqu'un de révolutionnaire. Donc c'est comment ne pas changer l'ordre de la société parce qu'elle pense que, en gros, ça n'arrivera pas, que c'est trop compliqué, mais quand même réussir à passer par la fenêtre quand la porte est fermée, quoi.
Et comment vous arrivez à expliquer qu'elle fait partie, que ses écrits, alors je pense évidemment au Malheur de Sophie, aux Petites Filles Modèles et toute la suite, comment ils se sont ancrés dans notre mémoire d'enfant, ces récits? Qu'est-ce qui fait qu'on les a tous, alors on les a pas forcément tous lus, mais qu'est-ce qui fait qu'on sait de quoi il s'agit?
Je pense que c'est quelqu'un que beaucoup de gens ont honte d'avoir aimé, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la lisent, qui l'aiment quand ils sont enfants. Puis quand ils relisent des trucs quand ils sont adultes, ils se disent « Mais mon Dieu, mais c'est complètement réactionnaire cette affaire !»
Ah oui, j'ai pas pu aimer ça, quoi.
Tout le conservatisme politique, toute la violence des rapports sociaux qu'ils percevaient pas quand ils étaient enfants, parce que c'est un monde qui est radicalement différent. Et du coup, il y a à la fois ce plaisir un peu coupable et le fait que c'est aussi une des autrices qui maintenant fait découvrir le 19e siècle aux enfants. En fait, c'est une des rares autrices du 19e siècle que les enfants lisent encore. Et je pense que c'est cette combinaison-là qui fait que ça continue de marcher. Ça, et bien sûr, le fait qu'elle écrit des enfants avec des sensations, avec des raisonnements, avec des revendications qui sont toujours d'actualité.
On n'a pas demandé à Alexis Dormal d'où venait Picobog. Vous pensez que j'allais oublier? Le prénom et le nom de ce petit héros sont nés de votre esprit ou de celui de Dominique ou de vous deux?
D'elle. Mais je lui donnais un petit coup de main quand même. Ah. Parce que, déjà, ce que j'adore dans l'enfance aussi, et avant tout peut-être aussi, c'est que c'est quand même un peu comme aussi la dessinée Sampé, hein, dont j'étais même pas inspiré, mais nourri. C'est de dessiner quand même ce qu'on était à l'époque. On est quand même une grosse tête d'enfant sur un tout petit corps, avec une petite nuque fragile. Et en soi, c'est drôle et touchant à la fois, quoi. Et en même temps, toujours vaillant et surtout se désintéressant complètement de l'image qu'il peut refléter. Parce que ce que j'en ai bavé, moi, à l'adolescence, avec les complexes, etc. Donc, moi, ça me fait du bien de replonger là-dedans. Et pour répondre à votre question, quand j'ai commencé, sur base des... Parce que ce qui vient d'abord, c'est le texte. Et c'est maman pleine d'humour. On a voulu faire de l'humour ensemble. Donc elle me propose des textes qui me font rire ou qui me font m'émouvoir. Et je cherche un dessin là-dessus. À l'époque, on vivait sous le même toit. On avait chacun notre atelier. Ouais. Et le plancher se creusait. Il y avait un vrai sillon d'aller-retour entre elle et son bureau et le mien. Et un jour, elle me voit jeter un papier dans la corbeille. Elle le reprend. C'était parce que j'essaie de sculpter le personnage avec mes dessins. Et elle voit un personnage avec une truffe bien bombée. Elle me ressort une photo de moi. Effectivement, quand j'étais petit, j'avais voilà cette lèvre supérieure bien bombée, comme piquée par un moustique. Et elle me dit mais c'est voilà, mais tu y es, t'as trouvé là. En fait, il fallait pas le jeter. Et ce petit bec lui a fait penser à un personnage qui s'appelait de la littérature de René de Valdia, qui s'appelait Pico del Oro, qui voulait dire bec d'or parce qu'il avait de l'éloquence, il avait ce parler qu'elle avait toujours.
Ouais.
Donc Pico est là. Là, pour l'instant, on ne voit pas, c'est la radio, mais j'ai plus beaucoup de cheveux. Mais à l'époque, j'avais une énorme tignasse, j'avais des cheveux. Et j'adore dessiner des cheveux dans tous les sens.
Ah bah oui, ça se voit.
Dans Pico, et voilà. C'est... Et ça lui faisait penser à une boque de châtaigne.
Ah bah
voilà.
C'est ça.
Donc on a mélangé les deux.
J'espérais que vous alliez me dire ça. Ah non, mais j'adore cette histoire. Merci beaucoup.
Grand bien vous fasse. Eva Rock. Sur France Inter.
Mes grandes tristesses de l'enfance, je crois que c'est des tristesses liées aux moqueries des autres enfants. Je me souviens vraiment de rentrer chez moi en pleurs, quoi. Parce que j'étais très grande très vite, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui je gère mieux ça, un petit peu mieux? Pour autant, quand je lis des commentaires de haters sur les réseaux et tout, j'ai l'impression que ça me ramène tout de suite à l'école primaire et que je suis de nouveau dans ce truc de vulnérabilité. Mais je crois que c'est ça peut-être un des trucs les moins cool du fait de rester un enfant longtemps, c'est que j'ai encore, je crois, un peu de mal à gérer l'intensité de mes émotions. J'ai des très grandes joies et des très grandes tristesses qui sont pas forcément, je sais pas comment dire, C'est, rien n'est mesuré et rien n'est très logique. Et je crois qu'il y a des gens que ça surprend beaucoup encore, ma façon de gérer mes émotions.
C'était un extrait de l'émission Small Talk, présentée par David Castello-Lopez, qui interviewait ce jour-là Clara Luciani. Nous sommes avec l'historienne Maïalène Berra-Sategui, la poétesse Hortense Rénal et le dessinateur Alexis Dormal. Et ensemble, on exploite les souvenirs de nos enfances respectives. Avant de revenir sur cet extrait avec vous, Maïalène, si vous le voulez bien, je voudrais juste lire un message qu'on vient de recevoir. Hortense, c'est pour vous. C'est un message de Jean Rénal, votre cousin. Sauf si c'est quelqu'un qui nous a raconté n'importe quoi, mais non, à vue de votre tête, c'est vrai. Il nous dit « Je suis le cousin d'Hortense et pour ma part, mes meilleurs souvenirs d'enfance sont liés aux retrouvailles avec tous mes cousins lors des nombreux repas de famille. Je suis en train de ramasser les bottes de foin qui sentent si bon. » Vous savez quoi ? Je trouve ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il y a cette notion de collectif, cette notion du souvenir à plusieurs, comme vous Alexis tout à l'heure avec votre frère. J'ai l'impression qu'il y a deux types de souvenirs d'enfance. Ceux qui sont sensoriels, comme on le disait au début, qui nous sont très personnels au fond et qui ne concernent que nous. Je pensais à Francis Eustache qui est une neuroscientifique et qui parle de cette mémoire autobiographique. En fait, on a l'impression qu'on se construit notre propre histoire. Et puis aussi cette mémoire qu'on a de l'enfance, mais avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était deux types de souvenirs d'enfance. Hortense Rénal, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est vrai. Bah, j'en profite quand même pour embrasser Jean.
Et, on l'embrasse aussi.
Et tout à fait. D'ailleurs, mes souvenirs de cousins, cousines sont très prégnants chez moi, dans ma famille. On était une horde, je pense, voilà, de petits corps frêles, comme
avec beaucoup de cheveux.
Voilà. Et oui, c'est dans ces relations-là aussi que se tisse l'enfance quand elle est heureuse. Et je repense au témoignage de Clara Luciani, et aussi c'est aussi un droit à l'enfance, hein, dans le droit international, hein, ce droit-là. Et évidemment, mes pensées vont aussi pour tous les enfants qui vivent des conflits ou qui pire meurent sous les bombes. Donc voilà, je voulais
le
dire
ça.
Quand même.
Mais oui, c'est pour ça. Alors, c'était pour ça qu'on voulait mettre cet extrait de Clara Luciani, parce que le souvenir d'enfance, évidemment, on préfère avoir des souvenirs heureux, mais c'est pas forcément ça. Maïalène, c'est intéressant son témoignage. On a l'impression que elle est poursuivie par ses souvenirs, ce mal en fait, qui, comme si c'était ancré en nous quelque part.
Bah, ça rejoint un peu le témoignage que vous avez lu tout à l'heure sur la personne qui dit qu'elle a pas de souvenirs, et où effectivement c'est possiblement pour des raisons
traumatiques. Il y a des traumas, bien sûr. Ouais.
Mais d'une certaine manière, la chance qu'on a quand on se souvient, c'est qu'on quelque part on sait.
Ouais.
Voilà. Ça peut être très violent et très douloureux et très difficile. Mais il y a une chance, je crois, enfin là je parle à titre personnel, dans le fait de savoir.
Ouais. Et ça veut dire que nous, en tant qu'adultes, aujourd'hui, on doit respecter ces mémoires d'enfants et les accompagner aussi.
Je pense, il y a un auteur qui s'appelle Tal Peter Broemers, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais qui a été une comète dans le monde de la recherche, c'était incroyable, et qui a écrit un très beau texte sur la fidélité aux souvenirs d'enfance et sur comment essayer de se souvenir, vraiment, tout en ayant conscience qu'on n'est pas la même personne, qu'on est un adulte, etc. Ça peut nous aider à ne pas être prisonniers d'un fantasme de ce que serait l'enfance. D'une enfance qui serait rêvée soit avec beaucoup de nostalgie, soit au contraire avec beaucoup de détachement, ouais. Le fameux « non mais ça, de toute façon, même pas mal, et puis
oui,
on s'en sort, quoi ». Et oui, je crois que c'est une très bonne idée, cette idée de Peter Broemers, d'être fidèle à son enfance. Mais je crois aussi que les gens qui ont eu une très belle enfance sont aussi fidèles à leur enfance quand ils arrivent complètement innocents à l'âge adulte et qu'ils n'ont pas l'ombre d'un début, d'une idée que ça peut vraiment arriver, vraiment être grave, que c'est là avec des vrais gens qui sont dans la même pièce, parce que il y a une forme de privilège qui s'ignore complètement. Et je crois qu'il y a aussi, il y a des adultes dans le déni complètement, mais je crois qu'il y a vraiment des adultes innocents qui ont eu cette chance incroyable d'avoir une très belle enfance.
Oui, je pense qu'on en a, quand on en a conscience, on le cultive aussi.
Exactement.
Ce souvenir heureux de l'enfance. Toujours selon Francis Eustache, les artistes, selon lui, ont gardé plus que les autres adultes leur âme d'enfant, dont vous parliez Alexis Dormal tout à l'heure, et restent capables de se remémorer ces souvenirs sensoriels et émotionnels de la petite enfance. J'ai l'impression, Alexis, quand je vous vois, quand je vous lis, qu'au fond, il y a un adulte et un enfant qui cohabitent en permanence.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Et surtout, mouvant, parce qu'on a des souvenirs figés, souvent grâce aux photographies, mais aussi des souvenirs de mouvement. C'est ce que j'adore faire dans... Donc, on travaille sur deux séries, Pico et aussi, qui est de 8 ans, oui. 138 ans,
oui.
et Anna qui est...
Pour les
qui,
plus petits.
Vraiment, voilà, oui. Pour les plus petits, dans lequel c'est surtout moi qui parle, qui me projette dans mon enfance, et en fait, j'accompagne Anna dans ses livres pour enfants à s'armer contre les dérapages de l'adolescence. J'ai pas trop aimé mon adolescence et je trouve qu'il y a une force et une philosophie dans l'enfance qu'il s'agit pas trop de perdre, en fait. Et donc, oui, j'ai l'impression qu'on est plusieurs. Je fais la psychanalyse, là, mais on est plusieurs à dessiner. Mais surtout, ce sont des souvenirs changeants, mouvants. Et ça, c'est important. Moi, quand je repense à mes souvenirs d'enfance aujourd'hui, ils sont encore plus beaux parce que je leur accorde une conscience, une expérience d'adulte.
Ouais.
Et si je peux rire avec tout ça, ben voilà, c'est
bien.
Bah
oui, et si en plus vous nous faites rire avec, Hortense Reynal.
Il y a un auteur belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Wauters et qui a dit « Écrire, pour moi, c'est ne pas cesser de faire signe à l'enfant que j'étais. » Et j'aime beaucoup cette image de faire signe, non seulement oui. parce qu'il y a une forme de solidarité, comme on l'exprime pour l'enfant que nous étions, mais aussi le faire signe. Quand on écrit, on écrit avec des signes, des caractères, et voilà, c'est aussi la langue. Mais voilà, cette idée d'être solidaire et d'avoir une bienveillance avec cet enfant-là.
Mais sans ces souvenirs d'enfance qu'on cultive, je pense, enfin on a certains, hein, les cultivent, surtout quand ils sont heureux, joyeux, Hortense Reynal, vous seriez presque amputée d'une part de votre créativité dans votre travail d'autrice ?
Très bonne question. Je pense que c'est un moteur d'écriture et effectivement est énormément fertile, fécond. Mais voilà, là où j'en suis d'ailleurs aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai l'impression que je vais peut-être clôturer, bon, on clôture jamais, hein, vraiment, hein, une espèce de cycle de l'enfance très prégnante, on va dire, pour peut-être commencer à
autre
l'épuiser
chose,
dans ouais. d'autres sources. Oui.
On peut profiter quand même de ces derniers textes. Votre dernier recueil s'appelle Abandon. Alors, je pense que c'est très lié quand même aussi à cette émission, parce que dans l'abandon, c'est aussi qu'est-ce qu'on abandonne de notre enfance. Vous avez accepté d'en lire un texte, on vous écoute.
Neige dans les hauteurs, les bovines ont quitté le plateau, les épaules froissées, plus personne ne viendra. Refuge dans la forêt, les écorces ont gardé leur relief. La nuque courbée, le quelqu'un que je parle ne viendra pas, mais... Le refuge viendra. Le refuge est venu, je crois. Un chemin entre deux aïeux ne s'efface pas dans les landes de Genêt. Une vie comme des vallons, une vie comme des montagnes, une vieille comme une femme, qu'on veut pas se souvenir parfois, et ça recommence, on reprend les mêmes bêtises, et on pleure contre un rocher. Les lignes de la charrue, déjà, il faut la botte au milieu, 5 minutes avec des pieds clochés, familiers au marché, juste demain, pas plus. C'est comme des graines bien grandies, mais toujours graines. Trop vite grandies, ça plante et quelque chose pousse encore. Le refuge, peut-être. Premier refuge et puis il y a les suivants, mais le premier mot après un silence est mon préféré. Ou bien le chemin sous l'arche en pierre, de quoi voir de chaque côté en pente, élan, gamine, dévalant, son avenir en face, dévalant, vers la suite de la journée, vers de grands yeux d'amour.
Pourquoi il faut écouter aussi Hortense Reynal et pas seulement la lire pour cette rythmique que vous avez si particulière? Merci infiniment. À chaque fois, ça m'émeut tout le temps, hein, vous le savez.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Salut, c'est toujours Samuel et aujourd'hui je suis énervée. Déjà, il y a ma mère qui a fait du bœuf aux carottes et je sens l'odeur d'ici, ça me dégoûte. Ensuite, à l'école, il s'est passé un truc pas marrant du tout. En fait, ça a commencé avec une fille dans la classe qui s'appelle Bérénice. Elle est venue me voir à la récré pour me dire « Samuel, je t'aime ». Sauf que moi, je l'aime pas, donc je lui ai dit merci, mais pas moi. J'avais trop peur qu'elle se mette à pleurer, mais à la place, elle m'a donné un coup de poing dans le ventre. Comme si j'allais mourir tellement ça faisait mal.
Vous venez d'entendre la voix de Samuel, personnage créé par Émilie Tronche pour les bienfaits d'une série animée génialissime à voir sur Arte, qui se décline désormais en album. Et Samuel, c'est toute notre enfance. Comme si on avait un peu des souvenirs en commun. J'ai l'impression que vous aimez bien aussi Samuel, Hortense.
Oh oui, j'aime beaucoup.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri, mais j'ai beaucoup pleuré aussi. Parce que parfois, ces souvenirs d'enfance, ça remue aussi quelque chose, je pense, que l'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Et je voudrais vous lire un message, enfin plusieurs messages d'ailleurs. Marielle qui nous dit « J'écoute l'émission et ça ne démarre qu'avec des bons souvenirs, mais moi, moi, mes premiers souvenirs sont des mauvais souvenirs. J'ai toujours trouvé difficile cette approche, comme si les souvenirs d'enfance ne sont que les bons. C'est pour ça qu'on a mis notamment le témoignage de Clara Luciani. On vous comprend tout à fait, Marielle. C'est pas toujours évident. On a une chance à avoir des souvenirs heureux. Mélissa nous dit, ce matin, j'ai cueilli des cassis et en cueillant, j'ai retrouvé mes sensations de petite fille cueillant des cassis chez mon grand-père qui nous payait, mon cousin et moi, 10 francs le seau. J'adore ça ramène à la terre, Hortense. Et Marlène, je pense qu'elle se rapproche un peu de ce que vous nous racontiez. Elle nous dit, avant mes 3 ans, à la campagne où nous vivions, mes parents et mes grands-parents maternels m'étayaient. Elle se souvient du miroir de l'armoire dans la chambre, à l'extérieur, le chemin pour aller à la mare. Elle dit, je joue avec 2 bouteilles à transvaser de l'eau de l'une dans l'autre, du sable. Et le jour des adieux pour aller vivre en ville, je suis assise dans une camionnette et je dis adieu à mes grands-parents. Ça aussi, l'exil, quand on est attaché à une terre comme ça, c'est des souvenirs très marquants. On sait qu'on dit qu'il y a un pic de réminiscence entre 15 et 25 ans. Je ne sais pas si ça vous concerne, Hortense, mais au moment où vous quittez l'Aveyron pour venir à la ville, pour venir à Paris, c'est des souvenirs très présents aussi.
Oui, tout à fait. Dans ma poésie et dans mes souvenirs, il y a effectivement un chemin, il y a une spatialité, il y a une avancée et abandon. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, dans ce livre-là, pour moi, il y a aussi comme une image d'un dos, un dos qui part. Oui, oui, il y a quelque chose qui avance, hein,
oui, qui avance,
tout.
C'est ça, oui. Mais alors, est-ce qu'au fond, vous pensez, tous les trois, que ces souvenirs d'enfance, c'est aussi une façon de nous apprendre, enfin, d'apprendre à mieux nous connaître, d'éclairer autrement ce présent, et peut-être de trouver un sens aussi au parcours qu'on a accompli, Alexis Dormal?
Sûrement, surtout si... On pense à l'étymologie d'enfant qui veut quand même dire qu'il ne parle pas. Ben, je trouve que l'enfance est drôlement parlante et on ferait mieux de surtout pas l'oublier ou de s'y référer souvent. Je vois des personnes qui ont oublié leur enfance ou en tout cas un état d'esprit quoi,
ouais.
Qui nous permet d'avoir un peu de recul, un peu d'autodérision peut-être, un peu et d'humilité aussi. Ça fait du bien, encore mieux.
Ouais. Mayalène Berasategui, vous pensez que ça nous construit aussi ces souvenirs d'enfance?
Ah, complètement.
Qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs.
Complètement, ouais. Absolument. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'y rester fidèle. Et je pense que ça contribue aux questions qu'on continue de se poser. On peut choisir de se dire, c'était pas vrai ou ça devait pas être ça, mais peu importe, ça a existé, c'était là. Et puisque c'était là, ça avait une forme de réalité et c'est légitime.
Vous écrivez dans votre livre, lire la comtesse de Ségur aujourd'hui, c'est accepter de se perdre dans un monde inconnu, parfois merveilleux, souvent cruel, et en revenir très étonné d'avoir survécu. Mais j'ai eu l'impression que vous décriviez un peu ce chemin qu'on fait vers nos souvenirs d'enfance, finalement. Que ça se ressemble beaucoup, vous ne trouvez pas ?
Y a des gens qui ont plus de probabilités de ne pas survivre que d'autres, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là,
ouais.
D'être très étonné finalement d'être arrivé là où on en est aujourd'hui et du chemin parcouru qui est... Souvent, quand on travaille sur soi et quand on regarde le monde et quand on essaye de garder les yeux grands ouverts, ben on fait de la route au bout d'un moment.
Exactement, de la grande route. J'aimerais, comme chaque jour, qu'on termine avec vos pépites, chers invités, c'est-à-dire ces coups de cœur qui vont nous permettre en fait, de poursuivre la réflexion sur le thème de l'émission, donc à savoir, aujourd'hui, vous l'avez compris, les souvenirs d'enfance. Mayalène Berasategui, est-ce que vous voulez bien commencer? Est-ce que notre conversation vous a évoqué, je ne sais pas, un film, un livre, une série, une citation, une chanson?
Je vais aller extrêmement vite, parce que j'ai pas voulu en parler, mais j'ai participé à un bouquin qui est très bien. Si vous avez des souvenirs d'enfance d'aérium, de préventorium ou de sanatorium et que vous comprenez pas ce qui vous est arrivé, il faut que vous lisiez un bouquin de Fanny Marlier qui s'appelle « Les enfants sacrifiés des pensionnats sanitaires ». Et si vous voulez les malheurs de Sophie, mais pour adultes, il faut que vous regardiez sur Disney+, une série qui s'appelle Extraordinary, dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, sauf l'héroïne, qui vient d'avoir 18 ans, qui n'a pas de pouvoir et qui est très très décidée à faire tout ce qu'il faut pour avoir son pouvoir. Elle va faire n'importe quoi, on sait que ça va mal se passer, mais on a quand même envie de regarder.
On mettra toutes les références évidemment sur la page de l'émission via l'application Radio France. Moi je vous conseille aussi d'ailleurs Les malheurs de Sophie par Christophe Honoré. On avait prévu de vous en faire écouter un extrait, on n'a pas eu le temps, Mayalène, mais bon voilà. L'intention qui compte. Alexis Dormal, un petit coup de cœur?
Sans Mafalda de l'Argentin Kino,
oui.
on n'aurait pas eu l'idée de raconter nous aussi un enfant qui voit le monde et qui nous fait rire et qui casse les préjugés et qui fait réfléchir les adultes.
Oui.
Donc c'est une série extraordinaire d'Argentin, des années 70 déjà, donc ça remonte, mais en fait c'est intemporel et universel, et c'est très 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 drôle.
Je suis entièrement d'accord, je valide votre choix d'Alexis Dorman.
Toutes les années, aussi, les aquarelles, je trouve que c'est tellement extraordinaire, c'est à la fois rapide, et ça n'a pas de date, et Edward Hopper, aquarelliste américain.
Je savais que vous alliez dire ça.
Il fallait quand même que j'en parle, j'aime tellement. Et le choc esthétique que j'ai eu à 18 ans en les découvrant m'a rappelé les chocs esthétiques que j'avais enfant. Voilà.
Totalement d'accord avec vous, les aquarelles de Hopper, c'est tellement magnifique. Hortense Reynal, les derniers mots sont pour vous.
Un recueil de poésie, T3M d'Héloïse Brésillon, un film, Ava de Léa Missius, et une chanson, Derrière la porte du groupe Mime.
Ava, mais j'adore ce film. Merci beaucoup. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça. Bon, on est obligé de couper, hein. Mais vraiment, on peut rester pour une deuxième heure si vous voulez. Amélie Perrier fera pas les infos, c'est pas grave. Elle vient de rentrer dans ce studio. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. Mayalène Barasategui, votre livre La Comtesse de Ségur ou l'art discret de la subversion est publié au PUF de Rennes. Hortense Reynal, votre recueil Abandon, c'est aux éditions La Crypte. Et Bouche Fumier, édité chez Cambourakis, sort en poche le 20 août. Et puis vous serez au festival Les Correspondances de Manosque. Ça sera le 28 septembre. Alexis Dorman, tome 17 de Picobox, sous-titré Questions existentielles, et tome 26 d'Anna Anna, Jeux d'automne, sont attendus le 3 octobre chez Dargaud. Elles ont une âme d'enfant et j'aime ça. À la réalisation, Claire Destacan, Anna Marsadier, Jessakia Bagic, Noélia Filiol et Elina Garcia sont à la préparation de l'émission. À la technique, il y avait ce matin Guillaume Roux et Théo de Lobadère.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.